La quête du bonheur, elle est aussi vieille que l'humanité. Mais il faut reconnaître quand même que les temps que nous traversons donnent à cette quête une allure obsessionnelle, frénétique. Le bonheur est devenu, d'une part, un droit qu'on revendique, d'autre part, un format qu'on impose. Et puis, on peut se demander comment vivre ce bonheur, cette vie heureuse en des temps aussi marqués par l'incertitude, par l'inquiétude, cette pandémie dont on ne sait si on arrivera à sortir. Et plus largement, comment puis-je être heureux quand je perds mon boulot, quand je perds mon conjoint, quand je perds un être aimé, un être cher, la maladie survient. Le bonheur, finalement, comme l'a chanté, l'a écrit l'Ecclésiaste, le bonheur n'est-il pas qu'une illusion? Et pourtant, les premières paroles de l'enseignement de Jésus, le premier mot de son enseignement, c'est celui-là, « heureux ». Il commence son enseignement en nous déclarant heureux. Mais nous venons de l'entendre aussi à la lecture de ce passage. Nous venons d'entendre que ce bonheur annoncé par Jésus est un bonheur très paradoxal. Jésus déclare heureux, non pas les riches, mais les pauvres en esprit. Pas les puissants, mais les doux. Pas les forts, mais ceux qui font œuvre de paix. On est quand même ici très loin des canons du bonheur. Alors commençons avec ce petit mot qui revient par 8 fois, heureux, heureux, heureux. Ce terme grec, makarios. Makarios, qui est le plus souvent traduit par « heureux » dans nos traductions françaises, ou « bien heureux ». Dans la culture grecque, ce petit mot-là est très connu, « makarios ». Il signifie « celui qui est béni des dieux ». D'ailleurs, on a une expression française comme ça, hein, « béni des dieux », celui-là. Tout lui réussit, vous voyez. C'est celui qui vit sans souci, le makarios, dans le grec, la société grecque classique. Dans les traductions, André Chouraki, dans une traduction qui lui est propre, très sémitique, du Nouveau Testament, propose à la place de ce mot « heureux », qui est dans toutes nos têtes, hein, il propose un autre mot qui est devenu célèbre, c'est le mot « en marche ». Parce que dans la Bible hébraïque, le mot « heureux » est construit à partir d'un verbe qui veut dire « s'élancer, marcher ». Et il traduit, Chouraki, « en marche, les pauvres en esprit ». Ce qui est très beau d'ailleurs. Mais je préfère la proposition du professeur du Nouveau Testament, Elian Cuvillier, qui traduit « makarios » par « vivant ». À la place du mot « heureux », on met le mot « vivant ». Les vivants, dans la vision évangélique, ce sont ceux qui refusent de se suffire à eux-mêmes, qui creusent en eux un espace pour autre chose qu'eux-mêmes. Ceux qui sont un peu comme la biche, du psaume 42, ceux qui sont portés par un désir, ceux qui aspirent à autre chose qu'eux-mêmes, ceux qui ne sont pas asservis à leur seul besoin. Le mot « désir » d'ailleurs n'est pas toujours très bien perçu hein, dans l'Église. On préfère parler d'aspiration, aspiration de l'âme. Tout de suite, vous voyez, comme ça sonne mieux. Hein. Soit, peu importe, l'idée est que le désir nous fasse élever les yeux au-delà de nous-mêmes, en quête d'autre chose. 8 paroles donc pour dire l'appel du Christ à rester vivant. Et il reste à savoir quand même un peu maintenant de quelle vie s'agit-il. J'ai rencontré au Liban un évêque orthodoxe nonagénaire, très respecté non seulement au Liban mais dans tout le Proche-Orient, pour sa parole à la fois vive et fraternelle. Il avait beaucoup œuvré pour le dialogue entre les musulmans et les chrétiens pendant la guerre du Liban. Et quand on dit « tous au Liban », ce n'est pas qu'une figure de style. Hein. Monseigneur Georges Roeder, dans son commentaire des Béatitudes, écrit qu'il ne faut pas chercher à les collectionner en pensant qu'en les enfilant les unes après les autres sur le collier des exercices spirituels, nous gagnerions le ciel. Il ajoute, on ne peut isoler aucune béatitude. Ceux qui ont une âme de pauvre sont nécessairement les doux, les affamés, les assoiffés de justice, les artisans de paix, les cœurs purs, les persécutés. Autrement dit, vivre une seule de ces béatitudes, un seul instant, c'est déjà, et je cite cette fois les sœurs de Pomérol, se pénétrer de l'esprit des béatitudes. Au contraire, vouloir inscrire ces paroles au palmarès de nos trophées spirituels, ça y est, maintenant je suis doux, ça y est, j'ai bien travaillé sur moi, je suis doux. Eh bien, c'est courir le risque de perdre toutes les béatitudes, de nous perdre avec elles, loin du royaume des cieux. Il y a un enjeu ici très important. J'ai choisi d'en méditer comme ça, rapidement, quelques-unes. Celles qui m'ont, en fait, le plus parlé, et j'espère qu'elles vont vous rejoindre un peu maintenant. Vivant les pauvres de cœur ou les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est la première. Et le premier paradoxe du bonheur va donner le ton, en fait, à l'ensemble. Heureux ou vivants, les vivants sont ceux qui manquent de quelque chose. Non, pas ceux qui sont pleins. L'illusion du bonheur, c'est cette... On la trouve... pour ceux qui suivent les études bibliques, un peu de pub au passage le jeudi, cette demande du peuple, c'est la demande du peuple hébreu dans le désert qui vient chercher Moïse pour réclamer les marmites pleines, comme celles dont on se remplissait le ventre en Égypte. Vous voyez, c'est ça l'illusion du bonheur. Le pauvre de cœur, le pauvre d'esprit, il a soif lui aussi. Il a faim, mais son désir le porte au-delà de lui-même. Parce qu'il sait, le pauvre, qu'il n'est pas autosuffisant. Le pauvre en esprit se sait en manque de sens, en manque de Dieu. Notre société se noie dans un puits sans fond de besoins tous plus artificiels les uns que les autres, ce qui a pour effet de nous empêcher de penser, de prier, de vivre la rencontre, l'écoute de l'autre, le partage. Vivant alors ceux qui ne sont pas pleins d'eux-mêmes. Le pauvre de cœur n'écrase jamais l'autre de ses certitudes. Il est attentif à la voix de celui qui appelle, que ce soit Dieu, que ce soit un autre pauvre. Il est doux, le pauvre de cœur, au sens où il n'a pas besoin de prendre pour posséder. Comme dans le psaume 37, il est question des doux qui héritent la terre. Eh bien, le doux ici la reçoit en héritage, en partage, sans la demander, cette terre, sans la mériter, comme un cadeau dont il peut prendre soin. Le doux, le pauvre, vivent dans l'attente de l'autre, dans le désir de Dieu et du prochain. C'est peut-être ça le bonheur. Le bonheur du pauvre de cœur. On peut se poser la question, sœurs et frères, qu'est-ce qui fabrique nos existences aujourd'hui? Est-ce cette course effrénée et désespérée à l'assouvissement de nos besoins? Ou est-ce le désir de rencontre avec celui qui vient illuminer nos cœurs de sa présence? J'aimerais vous entraîner vers une seconde béatitude. Vivant ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. C'est encore l'image du manque, qui apparaît ici. Le vivant, ce n'est pas l'homme comblé, je l'ai dit, c'est l'homme en manque, l'homme altéré. Être vivant, ce n'est pas être plein de réponses, plein de paroles, plein de solutions pour résoudre les problèmes de notre monde. Écoutez les chaînes d'infos en continu si vous êtes assoiffé de solutions qui peuvent résoudre tous les problèmes du monde en 5 minutes, vous serez servi, Celui qui dit « j'ai la vérité », en plus de s'abuser lui-même, il ne sait pas ce qu'avoir faim et soif signifie. Il ne cherche pas la vérité, il la possède. Celui qui a faim et soif de justice, c'est un pauvre en esprit. Il est tendu vers l'inattendu d'une rencontre qui peut et qui vient bouleverser son existence. La justice est quelque chose de très rare, qu'il faut chercher. Ce n'est pas la loi, la justice, ce n'est pas la règle qu'il suffirait d'appliquer. Être juste, c'est plus subtil qu'appliquer le droit. Cela nécessite écoute, silence, discernement, recherche, ouverture à l'autre, fût-ce le pire de tous les hommes. J'en viens à la 7e béatitude. Vivant ceux qui font œuvre de paix, ou vivant les ouvriers de paix, le royaume des cieux est à eux. Ils seront appelés fils de Dieu. Pardon. Oui, c'est ça. Ils seront appelés fils de Dieu. Comment concilier cette parole de Jésus? Heureux, vivant ceux qui font œuvre de paix, avec une autre parole de Jésus, trouvée un peu plus loin dans le même évangile, au chapitre 10, qui dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Matthieu 10, 34 à 36. Et on va retrouver cette même épée un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. C'est cette fois une épée, c'est le même mot, l'épée, le glaive, le couteau, à double tranchant, qui vient nous travailler de l'intérieur, qui sépare en nous, entre âme et esprit, il y a tout un travail intérieur qui met de l'ordre. Voilà. L'épée que Jésus apporte ne sert pas à tuer ou à faire la guerre. Elle sert à séparer des personnes et pas n'importe quelle personne, en l'occurrence des personnes d'une même famille. Sans doute, j'apporte là une lecture un peu différente de celle qu'on peut avoir l'habitude. L'épée ne me sert pas à me séparer d'un voisin insupportable, hein, on a envie quelquefois, hein, mais d'un père ou d'une mère, d'une belle-mère, là encore on peut comprendre. Je demande pardon à toutes les belles-mères. Jésus, ce qui est dit, c'est que Jésus apporte la division, une division salutaire au sein de la famille. Je reviens, on va faire du ping-pong entre les deux paroles, je reviens à la béatitude et j'observe que les faiseurs de paix sont appelés fils de Dieu. Les faiseurs de paix sont appelés fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils constituent une fratrie, une nouvelle famille, la famille des faiseurs de paix. En Matthieu 10, Jésus dit que là où existe le risque que deux personnes d'une même famille ne fassent plus qu'un, comme un père et un fils, une mère et une fille, belle-mère, une belle-fille, il faut couper, il faut séparer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le fils va devenir un clone du père. Et la fille, un clone de sa mère. Et pour le Christ, ce n'est pas ça, le bonheur. D'ailleurs, pour le Christ, il n'y a que l'homme et la femme qui sont appelés à devenir non plus deux, mais un. Ce sont les seuls qui ne sont pas cités, vous remarquerez, hein, dans le travail de séparation. Et pour cause. Mais les membres d'une même famille, eux, sont appelés à se séparer. Au couteau, s'il le faut. La fusion familiale, avec sa famille d'origine ou avec sa famille d'adoption, est un mal que Jésus combat. C'est bien de nos relations que traite cette béatitude de la paix. Elle dit que toute relation est comme une naissance douloureuse. Pour être vivant dans une relation, il faut se couper, il faut se séparer, et non se fondre, et non disparaître dans l'autre. C'est le bébé qui nous l'enseigne. Le bébé qui vient au monde n'existe que par la séparation. On coupe au couteau, à l'épée, ce que ce bébé pensait être sa raison de vivre, le cordon ombilical. Mais par ce geste tranchant, violent, on fait vivre et le bébé et la mère. C'est de cette séparation salutaire que parle Jésus ici, faire la paix à un prix. Le bonheur passe par la séparation, par l'opposition, la contestation, l'affirmation de soi devant l'autre, jamais pour le tuer, mais pour le comprendre et faire route avec lui, pour le connaître en vérité et apprendre à faire la paix et à devenir l'un et l'autre fils de Dieu, frère, par conséquence. Par voie de conséquence. Vous voyez que les béatitudes ne sont pas un programme de sanctification. Elles sont un appel à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre le monde dans lequel nous sommes invités à aller. Elles ne sont pas quelque chose à faire, mais quelque chose à entendre, à recevoir. Quelque chose à vivre plus comme une promesse que comme un impératif. Elle nous appelle, les béatitudes, à la confiance en cette vie qui ne vient pas de nous, mais qui nous est offerte en cadeau, en partage, par Dieu. Les béatitudes ne nous appellent pas non plus à fuir le monde tous ensemble, là, la nouvelle fratrie, pour constituer une société de pur, de doux, de juste. Non. Elles nous appellent au contraire à recevoir le monde en héritage pour vivre dans ce monde pleinement, pour cheminer avec lui, au risque quelquefois de la persécution. Les béatitudes vont advenir, elles vont faire advenir en nous une réalité nouvelle, un règne nouveau qui se donne tout entier par la personne et la parole du Christ. Est-ce cela le bonheur? En tout cas, c'est la vie à laquelle sont appelés ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes et dont les désirs les poussent, les portent au-delà d'eux-mêmes, vers le Dieu de la grâce et vers les autres. Sommes-nous vivants de cette vie-là? Amen.